Je vais essayer de vous proposer trois points, dont le premier, c'est de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de sport? Je ne vais pas redire ce qui vient d'être dit, etc. Mais je pense que le mot sport est un mot valise qui renvoie à des réalités finalement très différentes et dont l'intérêt pour le développement et la paix est très varié. Au fond, du jeu d'enfant, des enfants à bicyclette ou aux Jeux olympiques, il y a bien sûr une véritable continuité, mais aussi des ruptures qui rendent difficile d'attribuer à l'un toutes les qualités de l'autre. Alors, le jeu. Le jeu, c'est une activité physique ou mentale qui n'a dans la conscience des personnes qui s'y livrent d'autres fins qu'elles-mêmes et le plaisir qu'elles procurent. Je viens de citer le petit Robert. C'est l'expression d'une liberté. C'est une activité, moi, que j'appelle du septième jour. C'est-à-dire que, ben, on n'est pas obligé de le faire. Et c'est donc, comme tel, un signe lointain de la fin des temps. Mais le jeu peut se structurer et devient un jeu. À ce moment-là, il a une règle, il a une loi. Et il devient dès lors une occasion de faire société avec d'autres. Même s'il organise une confrontation, elle est gratuite et de fait engendre souvent une vraie fraternité. Ça, c'est le jeu. L'entraînement. L'entraînement, ça n'est pas du tout un jeu. Il n'est pas gratuit. Il a un but. Le but, c'est la performance, voire l'efficacité dans le combat militaire, par exemple. Il demande concentration, courage, patience, maîtrise de l'angoisse. Il demande de la volonté pour effectuer des gestes qui peuvent sembler complètement contre-intuitifs et qui donc ne sont pas spontanés. C'est souvent un ascèse, un combat, une ascèse, un combat qui peut prendre la personne tout entière. Il peut demander d'assujettir sa vie au rythme du corps, d'avoir une hygiène stricte pour la nourriture, la boisson, le sommeil, et j'en passe. L'entraînement est de toute façon une confrontation au réel. On ne peut pas tricher, ni avec le temps, ni avec la pesanteur, ni avec la précision, ni avec la capacité sportive d'un autre athlète, quelle que soit sa race ou ses convictions. Contrairement à bien des activités humaines, on ne peut pas faire semblant. Quand la barre du saut est à 6 mètres, eh bien elle est à 6 mètres. Il faut sauter les 6 mètres. Le ventoux est à tel pourcentage de côte, les piquets sont plantés là où ils le sont, on passe ou on ne passe pas. Il me semble que dans l'entraînement et dans le sport, il y a un rapport au réel qui fascine. Mais ce qui fascine le plus peut-être, c'est le rapport entre le corps et l'esprit qui se révèle dans l'effort. Le geste réflexe du tennisman qui surgit en une fraction de seconde en respectant une tactique précédemment élaborée, l'esprit qui semble se dissoudre dans le corps ivre de fatigue et qui, au-delà de cette fatigue, accepte de se faire mal pour se dépasser, transforme le corps, j'allais dire, en corps spirituel. Celui qui a fait une grande, grande marche en montagne de plusieurs heures, extrêmement difficile, et qui arrive au sommet, le comprend. Alors, et bien sûr qu'il y a des discours hygiénistes en disant que le sport, ça fait du bien au corps, mais ce discours n'arrive pas à décrire la jouissance de tout l'être, de vivre au-delà de ses limites et de progresser encore. Le sport, même si son étymologie renvoie à l'amusement, les sports, c'est ça que ça veut dire, est lié aujourd'hui à l'idée de compétition et sans doute aussi à celle de spectacle. Le combat est au cœur du sport et donc la stratégie doit s'ajouter aux qualités données par l'entraînement. Il faut peut-être nous arrêter une seconde sur la violence. L'étymologie du mot renvoie, le mot violence renvoie à la force, à la vigueur, à la puissance. Et peut-on être un homme ou une femme sans avoir de temps en temps volonté de dominer? L'entraînement et le sport en général se donnent comme objectif, plus ou moins explicitement, de dompter cette violence, de la canaliser en l'utilisant pour être premier. Soyons clairs, elle donne son intérêt à la compétition. Et il arrive malheureusement que la rage de gagner manque son but et ne devient qu'une rage agressive et malheureusement contagieuse. Et on sait bien que les nationalismes savent l'utiliser. À l'évidence, le sport crée du collectif, non seulement parmi ses acteurs, mais aussi parmi ses spectateurs. Et facilement, il peut prendre un aspect quasi religieux avec la beauté de ses célébrations, ses prêtres, les entraîneurs et les coachs, les commentateurs télé, la mise en vedette de ses idoles, la force de vie qui s'en dégage. Évidemment, il convient de distinguer le sport des acteurs du sport des spectateurs. Pour les spectateurs, le sport est un divertissement, peut-être même une secrète protestation contre le fait d'être écarté de la compréhension de la scène politique. Et c'est le besoin de ce peuple de vivre ensemble. Ce divertissement peut conduire à l'enthousiasme, comme à une sorte d'orgasme collectif fondateur d'une société. Mais l'excitation est rarement poussée à ce paroxysme. Et elle a besoin en plus, très souvent, d'être renforcée par le pari. Chaque année en France, 5 milliards d'euros sont joués dans des paris sportifs par 2,5 millions de parieurs généralement masculins et jeunes. Paris sur le foot, le tennis, le basket, le rugby, le volley, le cyclisme. En France, il faut dire, la grande majorité des jeunes jouent des petites sommes. Je vous ai dit, les acteurs du sport peuvent être amateurs ou professionnels. Mais la plupart des amateurs sont dans des clubs qui, de plus en plus, sont gérés professionnellement. Les bénévoles fournissent plus de 364 000 équivalents plein temps à ces clubs. Il est vrai qu'il y a 360 000 associations sportives en France, 35 000 n'ont pas de salariés, mais il y a quand même dans ces associations sportives 115 000 salariés. Et les 200 plus importantes associations sportives ont un budget de 2,5 milliards. À côté des associations, il existe 112 000 entreprises avec 448 000 employés qui travaillent pour les sportifs. Le sport est un business. Et ce business participe à près de 2% du PIB français. On ne pourrait pas achever la description sans insister sur le rôle des médias. Il est évident que de telles masses d'argent, de tels intérêts, ne peuvent que chercher à influencer le milieu du sport. Pour les meilleurs, en favorisant les petits clubs et la formation. Pour les pires, en suscitant la tricherie, le dopage, indirectement des lobbies mal intentionnés, voire en supportant de près ou de loin le crime. Il serait aussi nécessaire de rappeler le soft power que représente le sport et son utilisation capitalistique. Je ne devrais ici faire allusion à ce qui se passe au Qatar. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le sport enflamme les esprits du monde entier. Mais les vedettes du sport se tournent vers les pays qui peuvent les payer. Le sport est devenu, par l'argent, un moyen de promotion sociale important et de promotion financière importante, et c'est sans doute pas la moindre des raisons pour lesquelles il fait rêver. C'était mon premier point. Mon deuxième point, c'est évidemment ce qu'on en dit, sport, paix et développement. C'était mon sujet, mais avant je voulais dire tout cela, parce qu'il me semble que ça n'est pas sans importance. Alors Paul VI disait que le développement ne se réduit pas à la simple croissance économique. Pour être authentique, il doit être intégral, c'est-à-dire promouvoir tout homme et tout l'homme. Eh bien, le sport fait partie, pour la plupart des gens dans le monde, de cette panoplie qui permet à l'homme de grandir. Et c'est un moyen reconnu universellement de développement et de paix. L'ONU a mis en place un bureau des Nations Unies au service du développement et de la paix. Je vous passe UNOSDP et compte sur le sport pour la réalisation de ses objectifs de développement durable. Vous savez, il y a 17 objectifs qui ont été votés en 2015, c'est la résolution 71, qui sont des appels à l'action pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. 180 pays ont reconnu ces objectifs, pensant qu'ils permettraient un accroissement de la tolérance, du respect mutuel, de l'autonomisation des femmes, de la mise en responsabilité des jeunes, de l'amélioration de la santé, de l'éducation et de la diminution des discriminations. Et pour l'ONU, un certain nombre de ces objectifs ont quelque chose à voir avec le sport, ou plutôt le sport a quelque chose à voir avec ces objectifs. L'objectif numéro 3, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être à tout âge. Objectif numéro 4, assurer à tous une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Objectif numéro 5, parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser les femmes et les filles. Objectif numéro 11, faire en sorte que les villes soient ouvertes à tous, sûres, résilientes et durables. Objectif 16, promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous. Objectif 17, revitaliser le partenariat mondial pour le développement durable. La résolution 74 de l'ONU, toujours de 2015, enfonce le clou puisqu'elle demande l'édification d'un monde pacifique et meilleur grâce à l'idéal olympique. Les Nations Unies n'ignorent pas l'intolérance, le racisme, la haine, la violence, la corruption, le dopage qui peuvent ternir l'image du sport, mais comptent sur l'amélioration de la gouvernance du sport, l'intégrité et la transparence pour dépasser ces fléaux. On peut en douter, mais c'est ainsi que c'est dit. Le bureau multiplie les initiatives de la promotion de la trêve olympique à la promotion du sport pour handicapés et à la réflexion et aux échanges sur les métiers du sport. Alors, les métiers du sport, ils font un grand travail là-dessus, sur les responsables de sponsoring, vous voyez, ça veut dire tout de suite finance, responsable logistique, manager sportif, responsable du marketing, merchandiser, directeur des communications, psychologue, médecin, coach sportif, avocat, agent financier. Et aux problèmes économiques liés au sport, la question des marques, les parrainages, les partenariats, les droits de transmission, les accords de concession et d'échange, le droit à l'image, la défense de la propriété intellectuelle. Ce n'est pas tout à fait simplement des idées en l'air, c'est beaucoup d'argent. La France est dotée d'une agence française pour le développement, agence qui proclame que le sport est un outil privilégié dans les 115 pays où elle intervient. Et évidemment, son but, c'est de créer du lien social et maintenir les jeunes dans le système. Le président Macron a souvent utilisé le sport comme moyen diplomatique et, par exemple, dans une tournée africaine en 2018, il a mobilisé les acteurs du sport et cherché à rapprocher le monde du sport de celui du financement. Vous savez que le dégel avec le Rwanda, c'est commencé par l'envoi de notre ministre du Sport. Dans ce concert des nations, la voix de l'Église est totalement accordée au soutien du sport. Bon, je viens de le dire, je ne recommence pas à dire ce qui vient de se dire. Le pape François soutient le sport de manière très forte. Depuis son arrivée à Rome jusqu'au 19 février 2021, si j'ai bien compté, il a publié 61 messages ou discours sur la question, et je ne parle pas des innombrables mots. Il a publié un livre. Chacun sait qu'il est fan de foot et qu'il continue à payer sa cotisation au club de San Lorenzo à Buenos Aires. Son message est clair. Le sport n'est pas simplement une forme de divertissement, mais c'est aussi un instrument pour communiquer des valeurs qui promeuvent le bien de la personne et aident à la construction d'une société plus pacifique et fraternelle. Or, les valeurs du sport, qui, à son avis, c'est une invitation à développer les talents que Dieu nous a donnés, ça transcende le physique pour nous porter dans le domaine de l'esprit et du mystère, ça apprend à gagner et à perdre, ça forme l'endurance, ça forme l'esprit d'équipe, ça pousse à se donner le meilleur de soi-même, ça protège les addictions, ça apprend le respect des règles et la loi. Pour lui, le sport pousse vers le haut, mais des forces pas toujours apparentes peuvent l'entraîner ailleurs, et ça, c'est évident. Et le pape de dénoncer le lien qui existe souvent entre le sport et l'argent. Le sport est harmonie s'il ne succombe pas à l'argent, dit-il. Si l'athlète ne se transforme pas en une source de profit, oubliant l'humanité du sportif et devenant une véritable marchandise. Quand on voit ce que nous faisons avec les jeunes que nous allons chercher en Afrique pour les former, on peut penser qu'il a raison. Il dénonce aussi la recherche de la victoire à tout prix. Les victoires obtenues en trichant sont laides et stériles. Si le pape donc n'ignore pas la potentielle face sombre du sport, il demeure ébloui par la beauté du sport et par l'enthousiasme qu'il suscite, enthousiasme qui donne fierté et dignité. Que penser de tout ça? Je n'en sais rien. C'est vous qui le savez. En tout cas, nous aimons le sport. Il n'en fut pas toujours ainsi. Et peut-être que ça peut nous faire réfléchir. Et peut-être qu'il y a, plus profondément que nous le pensons, des divisions à propos du sport. En tout cas, dans l'Antiquité, la culture gréco-latine était partagée. Certes, elle aime les corps, les beaux corps, Et Platon décrit un chemin pour découvrir la vie spirituelle en partant du corps, puis de deux beaux corps, puis de multiples corps pour découvrir le beau et bientôt le goût des belles idées. Ça, c'est le banquet. Mais le même Platon pense que le corps est la cause principale de l'attachement au monde sensible et qu'il est un poids pour l'âme. Ça, c'est le Phédon. Un poids pour l'âme. Le monde moderne, au fond, donne une place très importante au corps, au point que pour beaucoup, le soin du corps a remplacé le soin de l'âme. Les progrès de l'hygiène, de la santé, de la nutrition, des cosmétiques, que sais-je, ceux de la photo, peuplent notre vie d'images du corps qui peuvent sembler faire obstacle à la vie spirituelle. Il est vrai que les premiers chrétiens pouvaient avoir de légitimes raisons pour s'éloigner du sport. La structure religieuse des jeux sportifs dédiés à Zeus et à Niké devait les terrifier. Mais il est probable que la nudité et le culte du corps et de ses performances ne devaient pas être pour rien dans leur éloignement du sport. Leur réaction interroge la nôtre et peut-être devrait susciter une réflexion. Ce n'est pas le lieu de le faire ici, mais elle me semble nécessaire. Le sport développe un imaginaire du corps. Si vous me permettez une petite anecdote, je me souviens d'un grand centre militaire qui est devenu le centre principal à Paris, où se rencontraient nombre de gradés et il y avait plusieurs milliers de personnes. Et j'avais été interrogé le marchand de journaux sur ce qui vendait le plus. Et ce qui le vend le plus à des militaires, c'était les journaux de bodybuilding. Voilà. Et notre époque aime façonner son corps et voit dans le corps, dans le sport, comme un défi lancé à la faiblesse du corps. L'anthropologie grecque faisait du visible le signe de l'invisible. La beauté des corps et leur prouesse signifiait quelque chose de leur Dieu. On a parlé tout à l'heure de la faiblesse. Je pense que l'anthropologie chrétienne s'attache davantage au rapport entre la faiblesse humaine et la grandeur de Dieu. La foi en la résurrection des corps ne peut se comprendre que dans un contexte ecclésial, en lien avec le corps du Christ, comme couronnement de l'Alliance. Alors c'est vrai que saint Paul, en parlant aux Grecs de Corinthe, n'hésite pas à évoquer le stade, l'entraînement, le désir de gagner, mais quand on y réfléchit, il en subvertit complètement l'esprit en affirmant que pour gagner, il faut compter sur Dieu plutôt que sur ses propres forces. Vous savez bien que dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors vous courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner. Et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide. Mais je traite durement mon corps, j'en fais mon esclave, pour éviter qu'après avoir proclamé l'évangile à d'autres, je sois même disqualifié. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. L'épreuve qui vous a atteint n'a pas dépassé la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvé au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de le supporter. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'évangile du Christ. Ainsi, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez bon dans un seul esprit, que vous luttez ensemble, d'une seule âme, pour la foi en l'évangile, et que ne vous vous laissez pas intimider par les adversaires. Ce sera pour eux la preuve de leur perte, et pour vous, celle que je viens de citer, Philippiens. De fait, est-ce que nous avons quelque chose à dire sur un sujet quelconque si nous ne croyons pas à la résurrection à propos des corps? Mais justement, dans un monde d'abstraction informatique, de rencontres virtuelles, je crois que le sport nous permet d'affirmer quelque chose d'essentiel. C'est tout l'homme qui est corporel. Il n'y a pas d'intériorité sans extériorité. Et la recherche de progression corporelle doit être accompagnée d'une volonté de progression humaine et spirituelle. Bien sûr, il est toujours nécessaire de désacraliser les idoles d'un jour et les apollons de trottoir. Mais comment pourrions-nous rester passifs, voire critiques, devant ces immenses mouvements de foule qui se tournent vers les stades, aspirant à la fraternité? Elles ont comme instinctivement le sens de l'eschatologie. Oh, j'entends des gens comme Mauriac se moquer. Le sport, un abcès de fixation que la bourgeoisie a mis du temps à découvrir. Il est vrai que cette religion n'a pu naître et prospérer que grâce à la sécurité, au loisir. La place que tient le sport aujourd'hui suffit à témoigner des progrès accomplis dans cet ordre depuis un demi-siècle. Ça, c'est le nouveau bloc-notes de Morbihan. À l'occasion de la Coupe du Monde de 98, Charlie Hebdo avait sorti un numéro spécial resté célèbre, l'horreur footballistique, dans lequel les journalistes s'insurgent contre les super investissements dans les grands stades, la récupération politique du sport en général et du football en particulier. Le capitalisme qui régit le sport, la bêtise et la méchanceté des femmes, des fans, le marché des jeunes d'Afrique et d'Amérique du Sud, le dopage, la corruption, et je dois en passer. Malheureusement, ni Mauriac, ni Charlie Hebdo n'ont tort. Il ne suffit pas de se référer au péché originel pour s'en faire une raison de ce qui est totalement insupportable. Il faudrait sans doute ajouter à la liste des griefs contre le sport un développement plus long que sur les rapports entre pays riches et pays pauvres et sur le racisme. Pour faire face à ces fautes, l'ONU prône une nouvelle gouvernance, suivant au fond une séquence technico-scientifique rationaliste, experts, crédits, projets et accès le plus rapide possible à la consommation. Mais comment ne pas éprouver que le cœur du problème n'est pas la gouvernance? Les grands mots qui entourent la planète sportive cachent souvent mal le mépris pour les petits et les perdants. Il manque une âme au mouvement sportif. Il manque peut-être de se situer devant un Dieu qui crée des créateurs en créant l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la ». Dieu n'a pas créé l'homme et la femme pour qu'ils restent tranquilles. Ses premières paroles dans la Bible sont pour les mettre en mouvement, même si très vite, après ce mouvement, il leur donne l'exemple du repos dans le sabbat. Premier ordre, se multiplier. Comment ne pas se réjouir de l'immense famille réunie par des jeux, par exemple? Multipliez-vous. L'introduction du verbe multiplier, rebout, est difficile. Les racines de ce mot ont donné rib, la discorde, quand il y a un surplus de biens, le rab, et a donné rabbi. La multiplication souhaitée n'est pas quantitative. Ce serait mieux de traduire développez-vous, avec ce que ça suppose de conflits, de surplus, de tractations. Remplissez, Milou, c'est le verbe en hébreu, ne veut pas dire saturer, mais évoque le vis-à-vis et le mot mila, la parole. Il s'agit d'échanger, de parler, de remplir sa vie. Soumettez-la, kibucha, évoque la propriété par sa limite, c'est-à-dire la borne. Il s'agit de s'approprier sans en prix. Certes, le péché guette l'homme et la femme, mais il ne détruit pas cette première loi qui pourrait inspirer la loi olympique. Oui, soyez à l'image de Dieu, hommes et femmes, grandissez, multipliez les rencontres, construisez une culture qui permette à l'homme de vivre et de se développer sans emprise sur les autres. Pour nous, chrétiens, il me semble que le sport est un des rameaux de la culture qui, prenant source en la création, conduit à la paix eschatologique en développant l'homme et la femme à leur taille d'adulte devant Dieu, à condition qu'ils soient sauvés du péché.